Non, je vais vous décevoir. Ce n'est pas un gâteau d'anniversaire. Vous allez le comprendre tout de suite. Le thème de mon message ce matin, c'est perdre la tête sur un coup de tête. Alors, c'est un titre un petit peu macabre, j'en conviens, mais pour une histoire qui ne l'est pas moins. Je vous invite à lire un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, les 12 premiers versets. À cette époque-là, Hérode, le tétraque, entendit parler de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité. » Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Cette histoire, elle est complètement mais ahurissante. Elle nous pose de nombreuses questions. Comment est-ce possible d'en arriver à une telle cruauté simplement pour ne pas perdre la face? Un homme au pouvoir est remis en question par un prophète. Hérode, le Tout-Puissant, n'accepte pas d'être remis en question dans son comportement. Ils se sont jugés par Jean. Il porte certainement dans son cœur une culpabilité dérangeante. Il faut en venir à bout de cet homme, ce trouble-fête. Hérode veut la peau de Jean. C'est vrai que si on lit le même récit rapporté par Marc, il y a une divergence. Marc nous dit qu'Hérode était souvent perplexe et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Le commentaire biblique, toutefois, précise qu'il n'est pas rare que des personnes chargées d'une culpabilité si complexe éprouvent des désirs contradictoires. Il le fait mettre en prison et attend une bonne occasion pour le mettre à mort. Il faudrait pouvoir trouver une bonne excuse pour l'exécuter. Jean a la faveur du peuple. Une exécution sommaire nuirait à son prestige. Un bon procès serait l'idéal, quitte à ce qu'il soit monté sur des accusations mensongères. Contre toute attente, l'épilogue va trouver son dénouement, mais pas du tout comme Hérode l'imaginait. Pendant son anniversaire, Hérode, grisé par l'alcool, est sous le charme d'une jeune fille qui danse devant ses invités, certainement tous des hommes, il va lui faire une promesse complètement insensée. Comment un homme éduqué peut-il en arriver là, à perdre tout contrôle sur le plus élémentaire du bon sens? La moitié d'un royaume, lui promet-il, pour une charmante jeune fille, qui en plus est la fille de sa maîtresse. Folie. Hérodiade, sa maîtresse, n'aime pas Jean. Elle aussi, elle est remise en question. Et voilà l'occasion rêvée d'éliminer le gêneur. Demandez la tête de Jean, suggère-t-elle. Demande la tête de Jean, suggère-t-elle à sa fille. Hérode ne peut plus revenir en arrière. Ce serait perdre la face devant tous ses invités qui ont entendu son serment. Et Jean va perdre la tête, victime d'une machination diabolique. Ce Jean, dont Jésus, peu avant son exécution, parle de lui en termes élogieux. Et c'est rare d'entendre des paroles comme ça de Jésus par rapport à une personne. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste, Jésus dit-il. Procès. Et Jésus lui-même, fils de Dieu, peu après va mourir d'une manière qui défie tout entendement. Procès il y aura sur des accusations qui ne tiennent pas la route. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 18, il nous est dit que Pilate savait que c'était par jalousie qu'il devait faire arrêter Jésus. Même sa femme a fait avertir pendant qu'il siégeait au tribunal, « N'ayez rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Cette situation de la mort de Jean, comme celle de Jésus d'ailleurs, me bouleverse. Elle m'a entraîné dans toute une réflexion que je vous partage ce matin. Comment un serviteur de Dieu peut-il mourir d'une manière mais aussi insensée? Jean exécuté pour répondre au désir d'une femme remise en cause dans ses déviances. C'est sûr que l'on n'aime pas quand on souligne nos comportements qui sont non conformes à la morale. Ça fait mal d'entendre des choses qui nous déplaisent. Hérodiade n'hésite pas d'aller jusqu'au crime en espérant apaiser sa conscience. Alors maintenant, je mets en miroir le drame de la mort de Jean avec tous ceux qui meurent victimes de la folie humaine, que ce soit au travers d'actes isolés comme victimes de la guerre. Que de violence dans ce monde. Je pense aussi à tous ceux qui sont frappés par la maladie, par des accidents aux causes irréversibles, par le deuil de proches, par ceux et celles qui sont victimes d'abus ou meurtris dans leur âme. De tout temps, nos pourquoi s'élèvent au ciel et restent sans réponse. Pourquoi Dieu permet-il? Combien de fois avons-nous entendu ces mots? S'il y a un Dieu, pourquoi laisse-t-il subsister autant d'injustices? Tout le monde souffre. L'homme souffre. La nature souffre. Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Un peu avant, Paul souligne « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Jésus avertit ses disciples ce qui les attend dans Matthieu 10. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents, etc. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous donne ce qui motive notre foi. Ne redoutez pas ce qui tue le corps, mais ce qui ne peut pas tuer l'âme. Cette assurance que rien ni personne ne peut toucher à notre âme nous permet de vivre dans la paix, dans un monde qui est en pleine turbulence. Parce que cette paix ne vient pas de nous, mais nous est donnée en Christ. Cette joie intérieure relève du miracle de notre foi en Dieu. J'ai été intéressé par l'éditorial de Camille Andrès, paru dans le journal Réformé, intitulé « Hommage aux résistantes et résistants ». Elle parle de cette joie profonde qui n'a rien à faire avec les joies du plaisir, du bonheur, du bien-être ou de réjouissances ponctuelles, mais d'une joie parfaite ou spirituelle. Un état de l'âme qui soutient toutes les actions du quotidien nous rend capables d'affronter les épreuves, jour après jour, offre une résistance confiante face aux injustices et à la violence. Cette joie-là, joie d'exister, pleine appartenance à la vie, ouvre des possibles, nous rappelle pourquoi nous sommes faits, nous êtres humains. En fait, ces propos de Camille Andrès sont pratiquement une paraphrase des paroles de Jésus que l'on trouve dans Luc 6, lorsqu'il adresse son sermon sur la montagne à ses disciples. « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez, maintenant, car vous rirez. » La liste continue. Et s'achève par ces mots. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et maintenant, je peux soulever cette cloche. Ici, vous avez toute l'essence de mon message, c'est résumé. Il y a deux symboles, celui de la lumière et celui de la couronne. Ce que je vois m'encourage dans la poursuite de mon chemin avec Christ, car il est venu apporter la lumière dans ma vie, dans la vôtre, qui plaçait aussi votre confiance en lui. Jean 8 nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Ça vaut la peine de persévérer. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La lumière que Christ est venu apporter ne s'éteindra jamais. Nous quitterons tous un jour notre enveloppe terrestre, c'est sûr. Mais notre âme, elle, vivra pour l'éternité. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, lorsque Philippe Bury, le secrétaire général du SME, est venu pour nous parler de l'éternité, il a tendu un fil depuis la croix jusqu'à l'autre bout de la pièce. Ensuite, il a mis deux petits rubans, environ ici, à ça d'espace. Cet espace représente notre durée moyenne de vie. Il nous a dit, vous voyez, tout ce qui était avant, c'est toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qui est à venir va jusqu'à sans fin, pour mesurer quand même, pour relativiser aussi notre période sur cette terre, et montrer que ce qui nous attend est de bien loin supérieur que l'on ne peut s'imaginer. La Bible, elle contient des promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Elles sont véritables. L'histoire est là pour nous prouver que les promesses que Dieu fait, il les tient. Elles se réalisent ou elles sont en voie de réalisation. Notre foi, elle est basée sur ces promesses. Je vous en cite une donnée par Jésus, qui ont porté les chrétiens jusqu'à ce jour et leur ont permis d'affronter toutes les situations jusqu'aux plus incompréhensibles, telles que celles affrontées par l'apôtre Jean. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, que tous, et personne ne pourra les arracher à la main de mon Père. Et puis la couronne, une autre promesse qui se réalisera. 1 Pierre 5, ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Et je termine par cette affirmation de Timothée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Eh bien, puissions-nous être encouragés par ces paroles, par ses promesses et par ce qui nous est réservé. On va passer un petit morceau de musique maintenant, le temps d'intérioriser un peu ce que vous venez d'entendre. Et puis ensuite, nous nous lèverons et nous chanterons deux versets d'un cantique qui parle de la couronne. Pour les aînés, vous vous en souvenez certainement, les plus jeunes certainement pas, parce qu'il ne figure dans aucun des livres de Jem. Il s'agit de le signal de la victoire, déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux.